Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez les jeux du mois de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew, et pour m'accompagner dans cette émission des Jeux du Mois, je suis accompagné d'une des nouvelles voix de Proxy Jeux de cette saison, et c'est Bartouf. Bonjour Bartouf, comment ça va ?
Eh ben écoute, très bien. Très heureux d'être ici avec toi, c'est la première fois qu'on partage une émission, alors je suis vraiment content.
Ouais, puis en plus c'est ton premier jeu du mois si je ne me trompe pas.
Effectivement, moi qui suis rarement à la page, bah pour une fois, j'ai joué à quelque chose vraiment d'actualité.
Effectivement, et moi aussi on va en parler dans quelques instants, mais avant ça... Nous allons penser à remercier nos donateurs et donatrices.
Eh bien, nous remercions le Dr Cheux, Philippe Leray, Siol, la famille Blu, Fendoel, Jimmy Celtics 95, 4-3, Arnaud VM, Yann Le Proto, Frédéric Moulis, Gnocchi Flette, Hammer. Merci également à la Caverne du Gobelin qui est notre partenaire. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, et qui ont tous leur café-jeu. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com.
Et traditionnellement, donc en début d'émission, nous allons aussi revenir sur les commentaires du jeu du mois dernier, où on avait donc Flavien qui nous parlait de Behind et Cyrus qui nous parlait donc de Wizard Cup. Et nous avons eu cette fois-ci 3 commentaires, 3 petits commentaires. Encore heureux que c'était pas le pion fesseur, sinon il aurait été déçu. Mais déjà un remerciement de Zoidberg qui a bien aimé l'émission et qui a pu jouer déjà à Behind. Et surtout un commentaire de Pierrot, donc qui dirige Kif Edition et donc qui revenait sur un des points qu'avait abordé Flavien sur la partie production, puisque le jeu est donc fabriqué à l'étranger. Et Flavien s'interrogeait sur le fait qu'un simple jeu comme ça avec des tuiles cartonnées ne soit pas fait en France, ça s'assimile presque à un puzzle de par le matériel. Et en fait, donc Pierrot répond que au-delà du matériel, il y a aussi toute une mise en place dans la boîte parce que chaque petite tuile est dépunchée et en fait mise dans des petits compartiments. Et apparemment, donc ça c'est fait à la main et visiblement, si on fait ça dans nos pays occidentaux, on aura un surcoût qui rendra le jeu invendable puisqu'il parlait dans son commentaire que d'arriver à un jeu à 45-50 euros, effectivement, un jeu de ce type à ce prix-là ne trouverait pas preneur, je pense aussi. T'as pu jouer toi du coup à Behind ?
Eh non, pas encore.
Ah,
encore,
là, là.
Mais ça donne très envie. Tous les retours que j'en ai partout autour de moi et de votre part à tous.
Ouais, on l'a fini très vite aussi, hein, parce que c'est très prenant. Et le fait d'avoir comme ça trois petits puzzle games par 3 dessinateurs différents, 3 ambiances différentes, c'est vraiment, vraiment attrayant. Ouais. Donc j'ai une boîte à vendre ou à te refiler si tu veux à l'occasion, hein, pas de souci.
Ah ah.
Et on avait donc un troisième commentaire de notre camarade Julien de Proxy Jeux qui revenait lui sur la partie Wizard Cup puisqu'apparemment la règle française est pas terrible. Alors je sais que Cyrus, tout comme moi d'ailleurs, on l'avait acheté à SN, donc on a la VO, on s'est pas trop penché sur la règle française, mais apparemment il y a déjà une FAQ disponible et la FAQ serait apparemment une règle complète puisque la règle d'origine aurait passé sous silence quelques points ou voire même introduit des erreurs dans la règle. Donc, si vous avez le jeu, allez chercher la version révisée dans la FAQ. Voilà pour les retours sur les commentaires. On va pouvoir commencer avec nos deux jeux. Donc, moi, je vais vous parler dans un premier temps du jeu SETI et toi, tu vas parler de The Gang.
Et oui, c'est bien ça.
Et donc, on se doit de faire un petit disclaimer puisque ben, c'est deux jeux yellow. Hein. On n'a pas fait exprès, mais l'actualité fait que ils sortent des bons jeux en ce moment, donc on s'est retrouvé à parler de deux jeux yellow en même temps, mais c'est pas la première émission où comme ça, par hasard, on se retrouve à faire soit deux jeux du même auteur, soit deux jeux du même éditeur, mais rassurez-vous, il n'y a pas du tout de sponsoring là-dessus, c'est vraiment notre choix d'édition. Et surtout, deuxième petit point qu'on peut faire, c'est que ben, les nommés de l'Asdor sont tombés, et les deux jeux que nous avons présentés, donc The Gang et SETI, étaient dans pas mal de listes des gens qui les voyaient nommés, et ben, ces deux jeux qui au final n'ont pas du tout été sélectionnés, comme quoi l'avis du jury n'est pas forcément l'avis de tout le monde, et que les expériences de chacun sur chaque jeu sont propres à ce qu'on en fait.
Bah oui, puis ça ne reflète que l'avis d'un jury, je veux dire par là, c'est leur choix, et du coup, ben, c'est forcément... partial, et donc cette idée de oh, ça aurait dû y être, bah, y a pas de raison en fait, ils ont fait leur choix et puis c'est tout.
Exactement.
On fait le nôtre dans notre coin.
Voilà, et il y aura toujours du monde pour dire que son jeu préféré n'a pas été sélectionné. On ne peut pas plaire à tout le monde, vu la quantité de jeux qui sort tous les ans, ça devient énorme. On va pouvoir commencer ?
Mais oui.
Allez, c'est parti, je commence avec SETI. Donc moi je vais vous parler de SETI. SETI c'est un jeu qu'on avait pu tester brièvement à Essen sur le stand de CGE, la société d'édition tchèque, et on l'attendait donc impatiemment la sortie française. Alors c'est un jeu d'un nouvel auteur, Thomas Olek, et qui a fait forte sensation parce que c'est son premier jeu, et on va dire c'est son premier Essen, et sur le salon d'Essen il présentait trois jeux. Donc ces trois premiers jeux étaient sur trois éditeurs différents. On avait donc SETI chez CGE, on avait Tea Garden chez Albi, on avait Galileo Galilei chez Pink Troubadour, et encore une fois, chacun de ces jeux était pas mal suivi, beaucoup de monde les avait mis dans leur top list à aller voir, et c'est donc ce qu'on avait fait. Donc SETI, ou si je vous donne le titre en anglais qui explique l'acronyme, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence, donc en gros, on va partir à la recherche des extraterrestres. Donc l'auteur, comme je disais, c'est Thomas Olek, et il est accompagné pour ce jeu de 11 illustrateurs et illustratrices. Alors, comme c'est un jeu tchèque, avec des illustrateurs tchèques, je me passerai de vous citer les 11 noms en tchèque, parce que de toute façon, ça serait une catastrophe. Mais en gros, beaucoup d'illustrateurs ont participé. C'est un jeu avec pas mal de cartes, des plateaux, une ambiance, des petites surprises au niveau des intelligences extraterrestres. Donc, pas mal de travail graphique. Voilà, allez voir ça, c'est sympa à voir. Comme je le disais, c'est édité initialement par CGE au mois d'octobre dernier. C'est arrivé chez Yellow tout début décembre de cette année en français, dans leur gamme Yellow Expert, donc où ils regroupent toute leur gamme Eurogame, on va dire, de jeux un peu costauds. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses. Alors, moi, j'ai pas joué en solo, mais j'ai pu jouer dans toutes les autres configurations. Il est donné pour 40 minutes par joueur. Alors là, c'est clairement sous-estimé, hein, puisque ça va être difficile de descendre en dessous l'heure par joueur, on va dire. Même avec des joueurs expérimentés, ça va être compliqué de faire 2 heures à 2. Hein, donc, clairement, évitez d'y jouer à 4, surtout pour votre première partie, parce que ça ruinerait la découverte. Hein. Après, à 4 joueurs expérimentés, c'est jouable. Je l'ai fait. Mais ça reste de très longues parties quand même, hein, sachant que c'est un jeu où on va beaucoup réfléchir, donc il peut y avoir pas mal de downtime avant que ça revienne à notre tour. On peut le trouver à 62,90€ chez notre sponsor, la Caverne du Gobelin. Enfin, on peut le trouver, on pouvait et on pourra le trouver parce que le jeu est en sold out un peu partout. Hein. Il est victime de son succès, on va dire. Et je crois qu'il revient là sur courant février, mars. Enfin, on peut estimer que Yellow essaiera d'en avoir pour pouvoir les vendre à Cannes fin février. Mais on ne sait pas, c'est toujours l'aléa des transports. Donc, surveillez le retour. Alors, un petit bémol, quand je me suis renseigné pour préparer cette émission sur la boîte, j'ai pas pu trouver le lieu de production. J'ai retourné la boîte, j'ai retourné le livret de règles, impossible de trouver le pays de production. Alors, il y a des petits éléments plastiques dedans, donc en général, on se dit, ben, si c'est du plastique, c'est forcément fait en Chine, donc ça m'oriente vers ce pays de production. Maintenant, il n'y a pas que du plastique, il y a leur fameux pion Henry Wood qui apparemment serait fait en Europe, donc bon, on ne sait pas où c'est fait, mais en tout cas, il y a beaucoup de matériel. Et donc, dernière actualité sur ce jeu assez récente, donc SETI a gagné le Diamant d'Or 2025. Donc Diamant d'Or, c'est le prix qui récompense les jeux experts de l'année écoulée, donc de l'année 2024. Et donc il a fini premier sur le podium, suivi par Sivolution et Invention de Vital Lacerda. Donc on sent un gros jeu bien Eurogame et qui plaît à pas mal de monde. Le principe du jeu, on va incarner des agences spatiales à la recherche de traces de vie extraterrestre et qui vont pouvoir en trouver par différents moyens. Je spoil un peu, ouais, parce que dans le jeu, on va trouver des traces de vie extraterrestre. Alors, à savoir que le programme SETI existe réellement dans la vraie vie et ça regroupe de nombreuses observations, ou plutôt, je devrais dire, de nombreuses écoutes, puisqu'on va plutôt utiliser des radiotélescopes pour écouter des radiofréquences. plus que de l'observation visuelle. Et que dans la vraie vie, le programme SETI, il n'a encore rien trouvé. Alors, en tout cas, officiellement, il n'a rien trouvé. Donc, dans le jeu SETI, on va avoir plusieurs types d'actions qui vont être variées et qui vont comme ça nous permettre de développer notre jeu au cours de 5 manches. Ces 5 manches, en fait, vont se dérouler jusqu'à ce que tous les joueurs ont passé, on passe à la manche suivante, etc., etc. Assez classique dans les Eurogames. Les actions à notre disposition, ça va être des scans de l'espace, comme le fait le programme SETI dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on va écouter dans une direction les différentes données qu'on pourra avoir. On va pouvoir aussi envoyer des sondes dans l'espace. Ces sondes-là vont se déplacer, vont se mettre en orbite de planètes, vont pouvoir aussi atterrir sur les planètes. Voilà, très très visuel sur le plateau. On va pouvoir aussi jouer des cartes. Et oui, parce que comme je le disais tout à l'heure avec cette pléthore d'illustrateurs, SETI, c'est avant tout un jeu de cartes, avec je sais plus exactement combien de cartes, mais une, je dirais 140 cartes à peu près. Et donc ces cartes-là, on va pouvoir les jouer de différentes manières. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. On va aussi pouvoir développer des technologies, puisque pour faire tout ça, ça va nous coûter des ressources, il va y avoir des conditions. Et ben, on va pouvoir, en développant certaines technologies, se faciliter la vie, on va dire. En tout cas, améliorer nos actions au fur et à mesure du jeu en y attachant des technologies nous permettant de les optimiser. Et on va surtout aussi pouvoir analyser des données, ce que fait le programme SETI dans la vraie vie, puisqu'on va récupérer des données par les scans et ces données vont être moulinées par des ordinateurs afin de trouver nos fameuses traces de vie. Le petit twist dans ce jeu, avec les traces de vie dont on parle, c'est qu'elles sont de trois types. On a les traces de vie jaune, bleue et rose. Et on va se servir de ces traces de vie pour trouver des, pas des civilisations, mais des pseudo-races extraterrestres. Le petit twist qui se passe dans le jeu, c'est que quand on va l'installer, en bord du plateau de jeu, on va mettre face cachée deux grandes tuiles qui vont représenter des races extraterrestres. C'est-à-dire qu'il y a 5 races dans le jeu, et on va comme ça en piocher 2 au hasard, dans la boîte quand on va mettre en place, mais on les met face cachée, donc on ne sait pas quelles races sont, donc, et elles vont chacune avoir une influence sur la suite du jeu. Et à un moment, on va donc se servir de nos fameuses traces de 3 couleurs, et quand on va avoir découvert une trace de chaque couleur pour une des tuiles aliens, on va retourner cette tuile, et là, la race alien va entrer en jeu. Alors, quand je dis entrer en jeu, ça va être des pistes de recherche, entre guillemets, on va dire, qu'on va pouvoir faire sur cette race, et en plus, elle va amener un paquet de cartes propre à chaque race extraterrestre. Donc dès qu'on retourne la tuile, on va avoir des pistes qui vont se dévoiler et on va piocher des cartes, puisque ceux qui ont participé à la découverte de cette race vont récupérer des cartes et en plus il y aura moyen d'en acquérir par la suite des choses. Et ces cartes, bien évidemment, sont différentes, plus fortes, amènent d'autres choses par rapport aux cartes de base qu'on peut avoir dans le jeu. Voilà, donc je ne vais pas spoiler plus en avant les races extraterrestres, parce qu'il y a une petite découverte qui est sympathique lors des premières parties, mais voilà, elles ont 5 aspects différents, alors elles ne sont pas toutes équivalentes en termes d'intérêt ou en termes de modification du jeu, mais voilà, il y a ce petit twist rigolo, et qui crée une petite course comme ça à la découverte, parce que plus on va participer à retourner les tuiles, plus on aura des cartes qui peuvent être un peu fortes pour la suite du jeu. Et pour aller un peu plus loin aussi dans la règle du jeu, il faut que je vous parle maintenant du matériel principal du jeu. Puisque ce matériel, c'est ce qui va avant tout attirer les gens sur le jeu, parce que quand on le voit sur une table, il y a tout de suite un effet attractif, parce que le jeu représente le système solaire. Et au-delà d'ailleurs aussi, parce qu'on voit sur les bords du plateau les galaxies lointaines, ou des amas d'étoiles lointains. Ce plateau, on va trouver le Soleil en son centre, et le Soleil, c'est une demi-sphère plastique, en fait, qui va ressortir comme ça du plateau. Et sur ce Soleil vont venir s'imbriquer 3 plateaux circulaires, avec un trou en leur centre, du coup, qui vont venir bien comme ça chapeauter le soleil. Et ces 3 plateaux sont 3 tailles différentes. On a un grand plateau sur lequel on va trouver Jupiter et Saturne représentés, puis un plateau moyen avec Mars et des astéroïdes, et un plus petit plateau resserré où là ça va être Mercure, Vénus et la Terre. Et donc ces 3 plateaux sont posés les uns sur les autres. Et je pense que vous le voyez venir, quand on fait tourner le plus grand plateau par exemple, il va faire tourner les 2 qui sont au-dessus en les emmenant. Si je fais tourner le moyen, j'emmène que le petit, si je fais tourner le petit, il tourne tout seul. Et donc on a comme ça dans le jeu une mécanique qui va nous dire, vous tournez le petit plateau, vous tournez le moyen plateau, vous tournez le grand plateau. Et l'effet que ça a, c'est qu'en fait ça va simuler le déplacement des planètes au sein du système solaire. À savoir que les planètes les plus proches du Soleil tournent plus vite que les éloignées. Donc dans le jeu, on va nous faire tourner un coup le petit, un coup le moyen, un coup le grand, ce qui fait que ben, les petits par rapport au Soleil, ils vont avoir tourné 3 fois, les moyens 2 fois et le grand qu'une fois. Et donc tout ça va représente un petit peu le réalisme, autant qu'on puisse le représenter dans un jeu de société, du système solaire. On a comme ça toute une notion de recherche, de transposition des effets réels de la part de l'auteur dans le jeu de société. Alors, avec quelques approximations et quelques raccourcis, on va dire, hein, notamment sur les extraterrestres, entre autres, mais voilà, en tout cas, on a comme ça une volonté d'avoir de quelque chose très visuel et proche du réel.
Jusque-là, c'est très clair.
Donc voilà, je voulais faire ce détour par le matériel parce que c'est un point important et ça articule tout le reste du jeu. Autre détail que je voudrais préciser, c'est sur les fameuses cartes qu'on a en main. Ces cartes peuvent avoir plusieurs fonctions. Un peu comme Narak, je vais peut-être beaucoup revenir sur Narak, mais j'expliquerai pourquoi au fur et à mesure, mais on a des cartes comme ça multi-actions, c'est-à-dire qu'elles ont déjà une action principale dessus que je vais pouvoir faire en les payant. Les cartes ont un coût qu'on va payer en crédit, qui est une des ressources du jeu, et basiquement, je paye 2 crédits, je pose ma carte, je fais son effet dessus. Ça, c'est son action principale. On a une autre possibilité d'utilisation de cette carte. En bas de la carte, on va avoir un système de revenus. C'est-à-dire que cette carte, quand je vais trouver une action qui me permet de créer mon revenu, je vais pouvoir prendre une de mes cartes en main, la glisser sous ma colonne de cartes revenus pour qu'on voit que le bandeau bas, et du coup, ça va devenir un revenu que j'encaisse immédiatement, et plus tard, quand je ferai mes revenus, ben je descendrai comme ça toute ma pile de cartes revenus, et je gagnerai tout ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est un autre moyen d'utiliser une carte. On a aussi la possibilité d'utiliser pour une action gratuite et immédiate, c'est-à-dire qu'en coin en haut à gauche de la carte, on a un petit bonus qu'on peut prendre tout de suite, et ben je défausse ma carte et je prends ce petit bonus. Et en quatrième possibilité, on a ce coup-ci en haut à droite de la dépenser pour du scan. Alors, soit quand elle est dans la rivière de cartes disponibles, soit par différentes actions quand je la défausse en main. Donc, on a comme ça une zone de scan tout à l'heure dont je parlais de scanner en face la Terre pour écouter, mais on peut aussi, avec des actions bonifiées, aller scanner sur différents secteurs. Les secteurs ont des couleurs et je vais atteindre ces couleurs en dépensant les cartes de la couleur correspondante. Voilà, donc ces cartes-là, on voit que comme il y a plusieurs possibilités pour l'utiliser, en fonction du jeu, je vais pouvoir m'adapter pour l'utiliser de telle ou telle manière, la garder pour la construire parce qu'elle a une action forte, la mettre en revenu parce que ça m'intéresse d'avoir un peu plus de sous au tour d'après, ou même tout de suite, parce que je le touche une première fois. Voilà, donc ces cartes-là, quand on les a en main, c'est parfois un petit peu difficile de choisir ce qu'on veut en faire, parce que l'action est forte, j'ai envie de la faire, mais j'aurais bien besoin de ce revenu, et puis de toute façon, comme elle est chère, je vais peut-être pas pouvoir la payer, donc il faut peut-être que je la défausse pour faire une action gratuite. Donc on a comme ça toute cette petite réflexion au cours du jeu, où une carte va avoir sa destinée changée en cours de la partie. Et ça va être effectivement très circonstanciel de où on en est dans le jeu, où j'en suis dans mes ressources, qu'est-ce que peut m'apporter cette carte, voilà. On a comme ça toute une réflexion à mener, et c'est une sensation qu'on retrouve assez régulièrement dans le jeu, c'est qu'il faut vraiment s'adapter. Parce que j'ai pas trop creusé les règles, hein, c'est pas le but des jeux du mois, hein, il y a beaucoup de vidéos règles pour le faire si vous voulez voir, mais dans les notions de scan, en fait, on va aller, quand on scanne, récupérer des données, des datas, hein, qu'on doit analyser plus tard. Il peut y avoir comme ça, sur le scan ou sur d'autres actions, hein, je parle du scan, mais il peut y avoir comme ça des effets d'opportunisme, puisque quand on va scanner l'intégralité d'un secteur, le majoritaire va gagner une trace de vie rose, etc., etc. Il y a des bonus à être majoritaire et à finir avant. Donc on peut avoir comme ça des effets d'opportunisme. Quelqu'un vient de scanner avant moi, il reste plus qu'un jeton data, et je vais scanner. Mais l'autre avait prévu derrière moi de scanner, donc du coup j'ai pris son action. Donc et comme ça on a en permanence des opportunités qui se créent, et ces opportunités, elles se créent pour les autres, et du coup elles peuvent chambouler mon plan de jeu que j'avais prévu. Donc on a comme ça une adaptabilité à avoir, et quand on joue à CETI, c'est pas rare d'entendre râler autour de la table, parce que même sans le vouloir, eh ben, des fois on va pouvoir faire une action que l'autre voulait faire, et ça va l'obliger à reprendre les choses, et ça peut comme ça amener au-delà de la râlerie, amener à du downtime, parce qu'eh ben, il faut tout de suite se réadapter, retourner un peu son jeu, retourner son plan pour pouvoir rebondir vers autre chose qu'on n'avait pas prévu et qui du coup est peut-être moins facile à faire. Dans le mode d'opportunisme aussi, je vous parlais des plateaux qui tournaient comme ça et des sondes qu'on va envoyer vers différentes planètes pour faire différentes actions. Eh bien, les sondes vont partir de la Terre. On est dans un jeu réaliste, je vous disais, donc on fait décoller nos sondes de la Terre et on les envoie sur les planètes, en direction des planètes. Tout ça en dépensant de l'énergie. Hein, le plateau, au-delà de ces plateaux en cercle, sont segmentés en cases. Et donc, pour déplacer une sonde, ça me coûte une énergie et je la déplace d'un. Et du coup, si on a comme ça Mars qui est proche de la Terre, ça va me coûter très peu d'énergie pour y aller. Mais ce qu'il y a, c'est que les plateaux tournent et un autre joueur peut le faire tourner. Donc, il faut saisir à quel moment c'est très intéressant d'y aller tout de suite parce que ça ne me coûterait pas beaucoup d'énergie. Et surtout, avant que quelqu'un fasse tourner les disques. Parce que, avant, quand ça reviendra à moi au prochain tour, peut-être que on aura tourné un disque et puis Mars sera une ou deux cases plus loin et ça sera plus cher. Et comme ça, il y a des choses à faire en priorité pour faire des économies pour la suite parce que, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais le jeu est très très raide en ressources. On commence le jeu avec quelques ressources, on doit avoir 4 sous, 3 énergies, quelques cartes, et c'est très très faible, parce qu'en fait les cartes, les coûts des cartes, alors je crois qu'il y a quelques cartes à 0, mais en gros les coûts des cartes ça va de 1 à 4, et donc quand je vous ai dit qu'on avait 4 crédits pour commencer la partie, on voit qu'on va pas poser des milliers de cartes dans le jeu, ou en tout cas à la première manche. Donc il y a comme ça une sécheresse au niveau des ressources qu'on ressent tout de suite et qui est très dur à surmonter dans les premières parties. Et surtout en fonction de la main de départ qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si dans notre main de départ on se chope que des cartes qui coûtent 3 ou 4 crédits, eh ben on va trouver le jeu très très dur. Là où si on récupère une main de carte de départ qui coûte 1 ou 2 crédits, ça va être beaucoup plus simple de poser des cartes en première manche. Et moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé dans mes deux premières parties. Clairement, j'ai pas aimé le jeu tout de suite, parce que c'était tellement raide de faire des choses. J'ai vraiment presque subi le jeu dans mes premières parties, parce que on a comme ça un besoin de ressources assez fort, parce que les cartes ont besoin de ressources pour les poser, mais envoyer une sonde, ça coûte de l'argent et de l'énergie, scanner, ça coûte de l'argent et de l'énergie, tout ça, toutes les actions ont des coûts, et les ressources sont très très limitées, donc il y a comme ça tout un moteur à trouver, des combos à trouver, pour soit que ça nous coûte moins cher, soit récupérer, créer un moteur qui nous ramène des ressources rapidement. Et ça, quand on connaît pas le jeu, dans les premières parties, c'est assez dur de trouver quelque chose qui se met en place rapidement pour en profiter dans les manches d'après. En gros, on arrive à créer un petit quelque chose qui apportera ses fruits en manche 4 ou 5, quoi. Ce qui veut dire que la partie est quasi finie, qu'on arrive un peu à se débrouiller et que voilà, c'est terminé. Donc il y a vraiment comme ça, pour moi, une à deux parties d'adaptation, de comprendre les mécaniques du jeu et de comprendre comment je peux les adapter à mon besoin. Et tu vois, on parlait tout à l'heure du fait qu'il n'était pas sélectionné à l'As d'Or. Et je me dis, s'ils font qu'une ou deux parties de découverte des jeux, forcément, tu passes peut-être à côté du jeu. Et c'est peut-être valable pour d'autres jeux, d'ailleurs. Je parle de CETI, mais il y a des jeux comme ça, s'il faut les creuser, peut-être que des jurys qui sont dans le rush de tester plein de jeux, ils vont peut-être pas creuser assez pour voir le jeu. Après, c'est ma supposition vue de loin. Mais je sais que moi, si je m'étais arrêté à deux parties, je l'aurais pas placé aussi haut dans mes jeux de l'année, on va dire.
Ouais. Et du coup, là, ce que tu disais, c'est au final, quand tu parlais d'opportunisme et surtout, ce que j'entends, c'est pour un Eurogame, il se passe beaucoup de choses sur le plateau. Et du coup, tant que ton voisin n'a pas joué, tu ne sais pas vraiment quelles vont être les données à partir desquelles toi, tu peux réfléchir à ton action.
Ouais, en fait,
tout en étant très limité dans ce que tu peux faire, parce que c'est vraiment chaud au niveau de la ressource, comme tu
le
disais.
Ça, c'est... Alors, je ne dirais pas que tu es obligé d'attendre que le joueur avant toi ait fini de jouer pour voir ce que tu peux faire, mais tant qu'il n'a pas fait son action, tu peux avoir une variabilité qui va avoir un effet sur ton jeu. peut-être te coûter plus cher, ou peut-être qu'il va même faire l'action que tu voulais faire avant, puisque s'il va, découvrir la dernière trace de vie de la race extraterrestre pour la retourner, si toi tu voulais le faire pour justement avoir plus de jetons et récupérer plus de cartes, tu feras pas ça, effectivement, parce que la race est découverte. Ou s'il envoie une sonde pour se mettre sur telle planète, parce que quand t'es premier sur la planète, t'as un petit bonus en plus. S'il l'a fait avant toi, t'auras pas ce bonus. Si tu comptais dessus pour la suite des événements, forcément, tu l'auras pas. Donc, il y a une forte interaction qui n'est pas, c'est pas du combat, mais c'est juste que, en faisant s'il fait ce que tu veux faire, tu peux plus le faire, ou tu le feras avec moins de bonus, ou s'il tourne s'il fait tourner le système solaire, ça te coûtera peut-être plus d'énergie, ou tu pourras peut-être pas atteindre la planète que tu visais à ce tour-là, mais en plusieurs tours, Il y a vraiment pour moi un impact permanent des actions les uns sur les autres. Alors, il y a des actions qui vont pas t'impacter, mais il y en a qui peuvent être très impactants. Et c'est aussi ça, tout à l'heure, je parlais de pas jouer à 4. Un, parce que ça va être long, mais deux aussi parce que si toi tu planifies de faire quelque chose en disant je fais ça là et puis au tour d'après je pourrais faire ça, il y aura trois personnes qui vont jouer avant que ça te revienne, et peut-être que la configuration du plateau sera complètement différente, l'action que tu voulais faire aura été faite une ou deux fois, ou la carte que tu visais dans la rivière aura été prise. Donc plus tu joues, alors plus tu vas avoir comme ça de variabilité avant ton tour. Quand tu joues à deux, en gros, la personne en face de toi pourra bouger une chose, quoi. Pourra bouger d'un cran, pourra faire... Enfin, donc, tu peux viser deux scénarios, t'es sûr d'en faire un, quoi. Et alors que plus t'as de monde autour de la table, plus ça devient, entre guillemets, chaotique. Un peu ce que je disais à un moment sur Château Combo, Château Combo à 2 ou Château Combo à 4, effectivement, quand ça revient à toi, t'as pas les mêmes cartes. Là, c'est pareil, quand ça revient à toi, les choses ont beaucoup plus changé s'il y a plus de personnes qui ont joué entre tes deux tours.
Ok. Et une autre question ? Est-ce que tu sens une grosse bascule quand y a la découverte des aliens ? Du coup, tu disais ça change des choses, donc sans nous révéler ce que ça fait, mais est-ce que du coup, tu as l'impression qu'on passe dans une autre phase dans le jeu ?
Oui et non. Alors, dans le sens, oui, parce que ça ouvre des pistes où tu vas pouvoir mettre d'autres traces de vie qui vont apporter des points et des bonus. Donc, pour ça, déjà, ça t'ouvre de grands secteurs en plus où tu vas pouvoir venir faire des choses. Après, ça va t'apporter des cartes aussi plus puissantes. Donc, ça va changer. Des cartes plus puissantes, plus chères aussi, ou qui se payent pas pareil. Donc, ça peut être aussi un peu perturbant si tu as mis en place un moteur qui t'apporte des sous pour payer des cartes traditionnelles. Et c'est un extraterrestre qui arrive et elle se paye pas de la même manière. Du coup, ton moteur, il va pas trop t'aider pour ces cartes-là. Donc, ça change la physionomie du jeu parce que ça le développe, on va dire. Mais ça change pas la physionomie du jeu dans les actions possibles, pour moi. En gros, sans trop dévoiler, les cartes se payent en crédit. Donc, tu vas avoir tendance à te faire un moteur de crédit parce que tu as envie de jouer des cartes, naturellement. Et puis, l'énergie, qui est l'autre ressource du jeu qui te sert à déplacer des sondes ou à faire des scans, t'en as peut-être un peu moins, donc t'as pas développé ce moteur-là. Y a une race extraterrestre, les cartes se payent en énergie. Du coup, ton moteur de crédit te sert plus pour... Enfin, voilà. C'est juste un exemple entre autres, mais j'ai pas trouvé que les races extraterrestres apportaient énormément de choses au jeu ou changeaient réellement la phase du jeu. Ça apporte un petit plus. Faut clairement jouer dessus. Faut faire un peu de tout dans ce jeu-là, tu peux pas t'ultra spécialiser, donc au même titre pour les races extraterrestres, quand elles apparaissent, il faut que tu ailles dessus. Faut pas que tu laisses les autres joueurs en profiter exclusivement, sinon tu vas te trouver à la traîne et tu vas pas bénéficier de ce qu'elles peuvent apporter. Dans ce jeu, je l'avais pas dit jusque-là, mais il faut faire de tout. En s'ultra spécialisant, on n'ira pas bien loin, en tout cas on sera pas dans les meilleurs scores, c'est clair. Tout à l'heure, je disais que je le rapprochais un peu de Narak, parce que pour moi, il y a des sensations un peu similaires au-delà des cartes multi-utilisation, dans le sens où t'as une progressivité comme ça dans la partie, dans les manches, où au début de partie, tu fais pas grand-chose, puis tu crées un moteur, tu récupères des cartes, tu montes en puissance, tu arrives à faire des combos, tu progresses sur... Tu vois, Narak, tu progresses sur des pistes, et au fur et à mesure comme ça, manche 1, tu fais 2-3 actions, puis manche 5, t'en fais une dizaine, quoi. Pour moi, j'ai cette même progressivité dans le... J'ai trouvé, du moins, cette même progressivité dans le jeu et dans le développement de tes possibilités au cours du jeu. C'est très riche en ressources, mais au-delà d'avoir développé le moteur qui va te donner plus de ressources, tu vas apprendre à quelle action va me permettre de récupérer un truc qui du coup me permet de faire un autre truc et voilà, et comme ça de faire une petite boule de neige pour te permettre de maximiser cette manche 5. Alors j'ai vu sur internet, il y en a qui trouvent la manche 5 de trop pour le temps de jeu et pour le fait qu'à la manche 5, ben en fait on va juste dérouler son moteur quoi. En gros, t'arrives à manche 4, ton moteur est fait, en manche 5, t'en profites. Et donc, il y en a qui disent, la manche 5, elle nous rajoute du temps, et puis au final, ce qui était vrai en fin de manche 4, à savoir les scores de chacun, ça bouge pas trop à manche 5, parce que chacun va progresser un peu de la même manière. J'ai pas trop vu cet effet-là. C'est vrai que la manche 5 est plaisante, parce que tu te sens un peu développé, et tu sens que tu peux faire des choses, là où avant, t'étais plus... retenu par tes ressources limitées. Je l'ai pas senti, mais bon, je peux le comprendre. Je ferai peut-être plus attention certainement dans les prochaines parties, voir si c'est réel. Je l'ai pas constaté en tout cas comme ça dans mes parties. Mais... Après, il y a peut-être une raison pour laquelle ça me rappelle un peu Narek, parce que je disais le livre N règle dans les remerciements, notamment de Thomas Solek, et il remercie beaucoup Mini Elwen qui l'ont aidé dans le développement du jeu. Donc Mini Elwen qui sont les deux auteurs de Narak et peut-être pour ça aussi qu'on retrouve pas mal de d'idées un peu similaires. En tout cas, je sais pas si à quel point ils ont mis leurs pattes dans le jeu ou donc à quel point ils ont guidé l'auteur dans le jeu, mais c'est peut-être pour ça aussi que je retrouve un peu de Narak. Mais bon, on est vraiment sur deux jeux différents, hein. Je dis pas que si vous avez l'un, pas la peine d'acheter l'autre, parce que là on n'a absolument pas de pause d'ouvrier, hein. On est vraiment sur du jeu d'exploration entre guillemets de découverte du système solaire en envoyant comme ça nos sondes. Et pareil, quand je disais qu'il faut se diversifier dans ce jeu-là, il faut vraiment faire de tout. Il faut envoyer des sondes, il faut faire des scans, même si à deux, on a l'impression que les scans sont plus faibles. Parce que comme je le disais, les scans, il faut aller retirer tous les jetons d'un secteur, et à chaque coup qu'on scanne, on enlève un jeton. Si on est 4 à aller scanner ce secteur, ou si on est 2, on se rend bien compte que ça va se vider plus ou moins vite. Et donc on va gagner le bonus de fin de ce scan beaucoup moins rapidement à 2 joueurs qu'à 4 joueurs. Et y a notamment une variante qui existe, qui est de dire à 2 joueurs, je retire un jeton data. Pour dire, je scanne ce secteur plus vite avec un scan de moins. Donc c'est une possibilité. Je ne l'ai pas essayé. Certaines personnes disent qu'en fait, ça rend le scan du coup trop fort à deux. Là où on a tendance à dire qu'il est trop faible. Mais donc voilà, c'est une des variantes qui existent. Tout à l'heure, je parlais aussi du départ du jeu, où si on a une mauvaise main de carte, enfin une mauvaise main de carte, si on a une main de carte avec que des cartes trop chères au départ, ça peut nous asphyxier un peu le départ du jeu. Et justement, il existe une variante pour ça, qui est de dire, au départ du jeu, au lieu de recevoir mes 4 cartes brutes comme ça de la pioche, on va faire un draft. C'est-à-dire que dans ces 4 cartes, j'en garde une, et je passe le paquet à mon voisin, et comme ça, j'en garde une autre, etc., etc. Et on va comme ça constituer sa main de départ en draftant. Ce qui fait, si j'ai le malheur d'avoir eu 4 cartes très chères, j'ai peut-être un peu plus de chances de lisser ce hasard en récupérant des cartes moins chères par le draft de cartes des voisins. Donc pareil, c'est une variante que j'ai pas essayée, que j'ai entendue et qui m'intéresse assez. Je l'ai entendue récemment, c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer jusque-là, mais je sais que la prochaine partie, on la fera certainement comme ça, pour voir l'impact que ça a, et je pense que ça peut être très intéressant, parce que pour avoir subi mes deux premières parties, je pense que ça aurait pu avoir un autre effet. Alors, quand on commence en première partie, drafter les cartes quand on se rend pas compte de ce qu'elles apportent, c'est peut-être pas très intéressant, mais sur des parties un peu plus tard quand on connaît le jeu, pourquoi pas.
Ouh là là, dis-moi Drew,
oui,
tu parles d'un jeu de cartes qui se passe dans l'espace, sur lequel on se pose la question, est-ce qu'on pioche les cartes directement ou est-ce qu'on les draft? Ça me fait fortement penser à un autre jeu.
Je t'ai dit qu'on pouvait atterrir sur Mars aussi ou pas?
Ah
Effectivement,
il va y avoir encore des batailles homériques sur est-ce que le draft est meilleur que la pioche.
Alors, je dis pas qu'il est meilleur, je dis que ça peut aider une situation un peu bloquée. Mais voilà. Après, comme j'ai dit, ça m'a fortement impacté sur mes deux premières parties, ça m'a pas empêché d'y revenir, et mes parties suivantes ont été faites sans draft, et ça s'est très bien passé aussi. Donc bon, c'est une possibilité à connaître, c'est tout. Je vais revenir un peu sur le matériel et sur l'ergonomie du matériel. Hein. Déjà, il faut une grande table, hein, comme tous les jeux modernes, on va dire, puisqu'on a notre fameux plateau principal avec les avec nos disques planétaires, mais à côté de ça, on a le plateau avec qui représente les planètes un peu plus loin pour quand on va venir se poser dessus. De l'autre côté, on a le plateau avec les technologies et tout ça. Donc, faut déjà une grande table. En plus de ça, on a nos plateaux joueurs. Donc, comme d'hab, grande table obligatoire. Et ce jeu-là, surtout, ben, c'est clair que c'est le matériel qui fait beaucoup de choses. Nous, c'est le matériel aussi qui nous a beaucoup attiré à SN. Le fait de voir ce soleil central, ces disques qui tournent, les petites sondes qui se déplacent, parce que je l'ai pas dit, mais enfin, tous les petits jetons, ce sont les fameux jetons en matière Rewood que CGE a commencé à utiliser avec Kutnora. Donc en gros, c'est des jetons moulés, mais à base de bois recyclé en partie. Donc ils annoncent 80% de bois et 20% de résine recyclée, en gros. Un peu du greenwashing à mon niveau, je pense, mais en tout cas, c'est très joli. Donc on voit, comme je disais, ces petites sondes qui se déplacent dans le système solaire. Et donc ça, c'est très catchy à l'œil. Après, on a aussi la partie des extraterrestres qui se dévoilent, donc aussi très, très attractif. Qu'est-ce qui se cache dessous, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est très attrayant, très chatoyant à l'œil, et on a envie d'essayer le jeu. Moi, j'ai trouvé le jeu assez lisible, même si c'est assez grand. Hein. Je disais que quand même c'était assez grand, et sur certains jeux comme ça peut être assez lointain. Hein. Quand on joue à plusieurs joueurs, ben, ce qui est de l'autre bout du plateau, parfois on peut ne pas le voir. Là, ça reste assez clair. Petit bémol peut-être sur les cartes. Hein. Je disais, ben, on a des cartes, une rivière de trois cartes, dans laquelle on va pouvoir piocher ou se servir pour faire des scans. Là, c'est pas toujours facile avec des cartes à plat sur la table de l'autre bout de voir. Donc, mettez dans un chevalet, ça se passe mieux. Et voilà, c'est avec une petite astuce comme ça, ça améliore pas mal le jeu. Mais sinon, ouais, j'ai trouvé le jeu très lisible, au point que j'aurais peut-être même pu l'acheter en VO sans qu'il y ait beaucoup de problèmes. Alors effectivement, il y a un petit peu de texte sur les cartes. Il y a notamment aussi du texte d'ambiance d'ailleurs sur les cartes où ils expliquent chaque élément, à quoi ça sert, comment c'est utilisé. Alors, si vous voulez prendre le temps de lire un peu les cartes, il y a tout plein d'informations dessus, c'est intéressant aussi à creuser. Voilà pour l'ergonomie, c'est assez clair. Pour dire aussi un petit bémol, savoir que la mise en place du plateau n'est pas aléatoire, et il y a des configurations sur le plateau. C'est-à-dire que je vous parlais des disques de planètes, mais aussi des galaxies lointaines qui viennent se mettre au bord du plateau. Mais en fait, tout ceci se met dans une configuration. Et pour les mettre dans une configuration, en fait, il y a un petit QR code dans la règle qu'il faut aller flasher. Et on fait on appuie sur le bouton et ça nous met une disposition aléatoire, mais cohérente, des différents éléments entre eux. Donc des trois disques planètes et des galaxies lointaines. Ça doit être pour des raisons d'équilibrage, notamment de premier joueur, etc. etc. Et donc, ben, ce petit QR code qui nous donne la mise en place de départ, il est caché au milieu de la règle, il faut aller le chercher à chaque fois. Bon, voilà, ils auraient pu le mettre dans un coin du plateau pour que ça soit plus rapide à mettre en place. Mais voilà, c'est vraiment pour chipoter sur ce qu'ils auraient pu améliorer, en tout cas. Voilà, donc mon avis, moi, sur le jeu, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est un de mes jeux préférés de l'année dernière. Alors, je suis très sensible au thème spatial aussi, hein, c'est clair que ça a toujours un petit point d'accroche sur moi. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop de jeux d'espace, moi je trouve que c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, d'avoir un jeu comme ça, scientifiquement réaliste, moi c'est quelque chose en plus qui vient cocher une deuxième case, quoi. Alors après, scientifiquement réaliste dans la limite des extraterrestres, dans la limite des sondes qui se déplacent en ligne droite, mais en tout cas la mini partie qu'on a pu faire à SN qui était très guidée, parce qu'en fait on joue pas vraiment, le démonstrateur nous fait bouger nos pions pour nous expliquer un peu les actions, mais en tout cas ça, j'étais déjà très attiré par le matériel, le visuel, ce que j'ai entendu, la demi-partie qu'on a fait encore plus, donc c'est clair qu'il est entré dans notre ludothèque et au fur et à mesure des parties, ça n'a fait que confirmer ce qu'on pensait du jeu, donc très bon jeu pour moi à essayer, et malheureusement je dirais à essayer plusieurs fois pour se rendre compte de ce qu'il a apporté en termes de compréhension du jeu et d'amélioration de son jeu, quoi, en tout cas. Toi, tu ne l'as pas, tu me disais, il me semble. Hein.
Non, c'est ça, je ne l'ai pas. Mais moi aussi, il m'a fait de l'œil, bah, notamment le retour que vous avez fait des scènes, et puis les retours divers et variés, et puis le diamant d'or aussi, qui forcément met un projecteur sur le jeu. Mm-hmm. Et ça donnait envie. Et À la fois par ce que tu disais, c'est-à-dire une interaction importante, qui est quand même qui est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, autre chose sur lequel, marrant, tu parlais de Narak en disant, bah, il y a les autres, les autrices et les auteurs de Narak, mais il y a aussi CGE, en fait.
Oui,
parce
oui.
qu'on n'a pas tous les, il n'y a pas tous les jours un jeu de chez CGE, et un premier auteur qui commence par chez CGE, c'est impressionnant.
C'est quelque chose, oui.
Ouais. Ça donne envie d'aller vérifier.
C'est un auteur passionné, justement, par tout ce qui est astrophysique, justement. Parce que je parlais de ces trois jeux, mais son autre jeu, Galileo Galilei, est aussi sur l'observation, alors dans une moindre mesure spatiale. Mais oui, ça, il aime le thème espace, en tout cas, c'est sûr.
Non, et puis ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que c'est pas du tout gadget, au final, de tout ce que tu... le matériel, là. Enfin, tu vois, les plateaux tournants et tout ce qui... À la fois, ça a un petit côté un peu simulationniste, mais en même temps, qui apporte vraiment quelque chose au gameplay et à ce que tu es en train de faire, quoi.
Ah oui, bah complètement, parce que tu vas à un moment calculer, de dire, ben là, il faut que j'attende que lui tourne pour faire ça, pour être plus proche, ça me coûtera moins, donc j'attends, je fais ça. Tu vas peut-être même aussi attendre ton tour, enfin faire des petites actions, on va dire, annexes pour vraiment attendre que ça tourne, ou au contraire, tu vas te dépêcher parce que si ça tourne, machin, la rotation est une vraie donnée que tu prends en compte dans ton jeu, quoi. Tu es obligé d'en tenir compte, voire même tu calcules avec, en disant, ben, je fais tourner pour pas que lui l'ait, ou au contraire, tu vois. Et c'est vraiment, c'est pas un gadget, c'est le cœur du jeu. Et ça, effectivement, c'est novateur, entre guillemets, parce que des plateaux mobiles en cours de jeu, c'est assez rare quand même dans les Eurogames. Au-delà de tuiles qui se rajoutent, j'entends. Hein.
Oui, j'entends bien. Et tu parlais aussi sur les cartes, tu sais, tu disais la rivière de cartes, elle est de 3, et donc bon, il faut un petit chevalet pour voir de loin, mais elles sont bien pensées, les cartes, c'est-à-dire que les informations, tu les as de manière très claire, parce qu'il y en a beaucoup, hein, de ce que tu nous as dit sur chaque carte. Est-ce que la lisibilité sur chaque carte est...
Ouais, alors en fait, les actions sur les cartes sont des grosses icônes quand même. Ce que chaque carte t'apporte, du moins, c'est des grosses icônes, donc tu as un petit texte d'explication dessus, donc tu peux t'y référer. Parce qu'il y a des fois, il y a des petites subtilités quand même, mais de loin, du moment où elles sont à la verticale, on va dire, t'arrives à comprendre 90% des cartes, hein, sans avoir à les récupérer vers toi pour voir. Mais voilà, c'est toujours ce genre de jeu où t'as des cartes à plat avec des grands plateaux et que les cartes sont à l'autre bout. T'as du mal à trouver un emplacement sur la table pour qu'elles soient lisibles de tous, et du coup, elles sont à plat de l'autre bout et c'est compliqué. Parce que oui, je vous ai parlé des plateaux individuels et tout ça, mais il y a plein de petits trucs autour. Il y a des tuiles de scoring de fin de partie. Enfin, il y a beaucoup de mécaniques qu'on trouve dans d'autres Eurogames qui font qu'il y en a tout autour de la table et c'est assez chargé. Donc la rivière de cartes, elle est malheureusement à un bout du plateau et pas toujours facile à voir. Hein. Oui, et pour être complètement précis, du coup, j'ai vérifié depuis tout à l'heure, c'est 138 cartes le paquet. Donc je disais à peu près 140, j'étais pas trop loin, ça va.
Ouais.
Sans compter les cartes extraterrestres qui arrivent en cours de route.
Ouais, ce qui explique les 11 illustrateurs et illustratrices.
Ouais. Et puis, on sent qu'effectivement, le plateau principal n'a pas été illustré par l'illustrateur de la boîte. Certaines cartes. Alors, je sais que ça doit être sur le site de Yellow, ou même sur BGG, je crois. Peut-être plus BGG. J'ai vu justement, ils ont fait un petit, détail des cartes au fur et à mesure de leur dessin. Donc, tu vois le draft de la carte, puis le dessin qui s'améliore, puis il est coloré. Et tu vois comme ça, certaines cartes, les différents stades de dessin et comment ils en sont arrivés. Parce que, il y a certaines cartes, tu t'aurais dit, mais ils ont fait des photos. Mais non, c'est du dessin. C'est très, très joli à voir. Hein. C'est clair qu'il y a du gros travail de dessinateur. Alors, on pourra lui reprocher aussi d'être très flashy comme jeu, hein, là où, en général, ce qui est scientifique, c'est pas très, très, on va dire, coloré, mais ça apporte de la lisibilité au jeu. Hey, c'est toujours Drew qui vous parle. Suite à l'enregistrement de l'émission, j'ai voulu creuser un petit peu la partie de la fabrication de CETI. J'ai trouvé une vidéo sur la chaîne YouTube de CGE où il nous présente la fabrication, puisqu'il faut savoir que CGE a racheté une usine de fabrication à Prague depuis un an à peu près et qu'ils produisent maintenant tous leurs jeux dans cette usine. Ils y montrent notamment la fabrication de CETI avec les différentes phases. On y voit notamment le collage des dessins sur les planches de carton, le formage des boîtes ainsi que tout l'assemblage des boîtes finales. La capacité de l'usine leur permet de produire jusqu'à 4000 boîtes par semaine, mais normalement, à l'heure où vous entendez cette émission, ils ont même une nouvelle machine leur permettant d'augmenter encore plus la production. Pour les pièces en plastique, leurs fameuses petites pièces très sculptées en ReWood, ou pour les jetons plastiques, que ce soit le soleil ou les jetons data, ils sont en plastique recyclé, et apparemment tout ceci est fait dans une usine proche, donc en République tchèque. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans le billet de l'émission. Voilà, on peut reprendre le cours de l'émission. Voilà pour CETI. On va passer à ton jeu maintenant. Tu vas nous parler d'un braquage.
Et c'est ça.
D'un braquage et de poker. Allez, on passe à ton jeu.
Ben donc, comme on l'avait annoncé, moi je vais vous présenter The Gang. Donc The Gang, c'est un jeu de John Cooper et Corey Heath. L'illustration a été faite par Fiore GmbH, donc c'est-à-dire que ça doit être très certainement un groupe d'illustrateurs ou un studio. Mm-hmm. La traduction a été faite par Laura Muller-Thomas. C'était édité chez Cosmos et là, en France, il nous arrive chez Yellow. Et le jeu a été imprimé en Chine. Ça se joue de 3 à 6 joueurs. Il est écrit que ça dure 20 minutes une partie et c'est à 15,90 chez notre partenaire La Caverne du Gobelin.
T'as pu faire que des parties de 20 minutes, toi ? Tu t'es arrêté à 20 minutes, vraiment ?
Non, jamais. On est bien d'accord. Enfin, si, je pense que tu peux le faire en 20 minutes, mais est-ce que vraiment tu apprécies le jeu et que tu y as joué comme il est censé y être joué ? Je suis pas sûr.
20 minutes, c'est la première dose, on est d'accord.
Ouais, c'est ça. Alors, The Gang. Alors, pour vous expliquer The Gang, je vais vous le rapprocher d'un autre jeu de cartes qui a été très important ces dernières années et qui est The Crew. The Gang, c'est un peu une continuité de The Crew, c'est-à-dire que on repart d'une base relativement connue. Alors, dans le cas de The Crew, c'était le jeu de plis. Dans le cas de The Gang, on repart du Texas Hold'em, donc une manière de jouer au poker, et on y ajoute de la coopération. Et du coup, ça change tout. Mais afin que tout ça soit pimenté, on décide que la communication va être limitée. Donc, si on doit encore rapprocher The Gang d'un autre jeu, c'est The Mind mélangé au poker. Alors, je vais débrouiller tout ça une fois que j'ai dit tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que The Gang repart du poker Texas Hold'em et que c'est une manière de jouer donc au poker qui a une mise en scène très puissante. Et bien sûr, bah, du coup, The Gang en profite et le reprend à son compte. Donc, dans le Texas Hold'em, ce qui se passe, c'est tout le monde reçoit deux cartes. Vous regardez vos deux cartes personnelles que personne d'autre ne voit, et là, une première mise se fait. Et on mise en décidant, ben voilà, est-ce que je reste, est-ce que je considère que j'ai une main qui va, enfin, après c'est du poker. Ensuite, arrive le premier flop, et là, trois cartes sont révélées, qui sont des cartes communes. Donc c'est-à-dire que si on s'arrêtait là, votre main serait vos deux cartes personnelles et les trois qui sont au milieu. Là encore une fois, on fait une mise. Ensuite, on a le turn, c'est-à-dire qu'une quatrième carte aux trois cartes communes est ajoutée. De nouveau, on fait des mises, et puis une cinquième carte, la rivière, est ajoutée. Et là aussi, dernière mise et mise finale. Et ensuite, normalement, eh ben, soit tout le monde s'est couché, il y en a un qui ne s'est pas couché, c'est lui qui récupère, ou alors on continue jusqu'à ce que quelqu'un doive abattre ses cartes, et l'autre aussi, on voit qui des deux, ou de plusieurs, ont les meilleures mains. Sachant que leurs mains, donc, ce ne sont que des mains d'une combinaison de cinq cartes du poker, donc des paires, des brelans, des flush, des couleurs, des quintes, des foules, des carrés. Mais donc ils prennent sur les 7 cartes qu'ils ont en tout, c'est-à-dire les 5 du milieu et les 2 qu'ils ont en main, à partir de ça, ils doivent constituer leur meilleure main qui est de 5 cartes. Donc ça, c'est le Texas Hold'em. Et donc vous reprenez la même chose pour The Gang, sauf que vu qu'on est en coopération, ce qu'il va se passer, c'est que là où habituellement l'attitude de mise de vos adversaires vous aide à deviner, comprendre ce qu'ils ont en main et en même temps ils essayent de bluffer. Ici, il n'y a pas de bluff. On veut justement que nos coéquipiers comprennent ce qu'on a en main. Et à chaque donc, moment que je viens de dire, c'est-à-dire je pioche mes deux cartes et là, j'essaye de donner une information et cette information, donc, elle va se donner de la manière suivante. En fonction du nombre de joueurs que vous êtes, il y a autant de jetons de poker que ce que vous êtes de joueurs, multiplié par 4. Parce que une fois qu'on a pioché ces deux cartes personnelles, on va aller prendre un jeton de poker qui sont numérotés de 1 à 6 en disant « Si je prends le 1 par exemple, je sous-entends aux autres, je pense que moi, avec mes deux cartes, je suis nul ce tour-ci. Si on devait abattre nos cartes, c'est moi qui aurais la combinaison la plus faible. » Bien entendu, j'en sais complètement rien, parce qu'une fois que d'autres cartes vont être tirées, peut-être que ça va changer, et que du coup je vais avoir en fait deux paires, je vais avoir un full, une couleur ou quoi, machin, mais comme ça, à première vue, ça me semble faible. Et la manière qu'on aura de communiquer avec les autres, c'est que les autres vont venir soit prendre les autres, en se disant, bah moi, je suis, moi, je pense que j'ai la deuxième moins bonne, la troisième, et j'ai la quatrième et je suis la meilleure combinaison, ou quelque chose comme ça. Ou alors, ils peuvent venir reprendre chez vous et dire, non, Bartouf, ce n'est pas toi qui as les pires cartes, je pense avoir pire que toi. Inversement, je peux aussi re-reprendre ce qu'il vient de prendre en disant non. Et donc, ce mouvement des jetons sur la table va du coup nous aider à nous positionner les uns par rapport aux autres. Si quelqu'un, et ça va aussi, bien sûr, nous aider à mieux comprendre. Si tout à coup, donc, on a tiré nos deux cartes personnelles, on en tire trois, quelqu'un se jette sur le pion numéro 4 parce qu'on joue à 4, et, enfin, sur le jeton numéro 4, parce qu'on joue à 4, et qu'il sous-entend, du coup, j'ai une super main, alors que le tour d'avant, il avait pris une petite, on regarde bien les trois cartes qui sont tombées, on se dit, ah, il doit avoir quelque chose en lien avec ça. À l'inverse, si, enfin, et de la même manière, si quelqu'un, tout à coup, lui reprend en disant, mais non, moi, j'ai mieux que toi, et qu'il la reprend de manière assez forte, on va comprendre que, ah, il a, enfin, il y tient, donc il doit vraiment, selon lui, avoir quelque chose de très fort. Là, donc, voilà, on a le principe de The Gang. On va jouer comme ça, et une fois que ça sera terminé, eh ben, on va révéler, et là aussi, c'est très intéressant au niveau de la mise en scène, on révèle de la plus, celui qui considère avoir la plus petite combinaison, donc il révèle ses cartes, il annonce ce qu'il a, enfin on voit et puis il annonce. Le deuxième révèle aussi, s'il avait en dessous, on a perdu. S'il avait au-dessus, ça continue, et on espère que tout le monde, petit à petit, va remonter et avoir une valeur toujours supérieure. Donc, il y a une espèce de suspense qui se maintient tout du long, parce que c'est pas on révèle tous nos cartes en même temps, c'est on les fait chacun notre tour et on espère que ça marche. Cette communication dont je vous parle, donc il est interdit de dire ce qu'on a en main, bien sûr, et donc c'est pour ça qu'on parle avec les jetons, ou et il est précisé aussi de ne pas parler des cartes précisément des autres. Ce qui est intéressant, c'est que cette communication donc codifiée, limitée par les jetons, elle va nous obliger à trouver une entente dans le groupe. Et notre communication, elle doit toujours porter, et quelque part, il faut qu'on comprenne qu'on parle de la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai joué avec un joueur. Il prenait à chaque fois le jeton le plus fort, en disant « je suis très très fort ». Donc, tout du long, on se disait « ah bon, bah, ok, il a un super jeu ». Et arrive la dernière carte qui tombe, et là, il prend en faisant « non, je suis nul ». On se dit bah mince, qu'est-ce qui se passe, c'est pas enfin en quoi l'apparition d'une nouvelle carte ferait disparaître la force de sa combinaison. Et en fait, alors que nous on jouait tous en fonction de ce qu'on avait au moment où les cartes se révélaient, lui jouait sur un potentiel. En fait, il avait potentiellement une couleur, il avait quatre cartes de la même couleur, et puis tout à coup la dernière est tombée, il a fait ah bah non, c'est pas la même couleur, donc bah en fait je suis nul. Mais du coup, on n'a rien compris de ce qu'il était en train de faire, parce que nous, on ne faisait que de parler de ce qu'on avait réellement. L'autre chose qu'il faut voir, c'est qu'il faut jouer aussi avec la psychologie de chacun. Par exemple, j'ai eu le cas dans un groupe où quelqu'un, lorsqu'il y avait trop d'agressivité quelque part, c'est-à-dire qu'il prenait un pion en disant « bah, je pense être ce niveau-là », et quelqu'un d'autre lui reprenait, mais de manière un peu violente, en ayant de dire « non, c'est moi », et bah du coup, il se disait « ah bah oui, bah donc il doit vraiment avoir mieux que moi » ou moins que moi, et du coup il se couchait quelque part devant ce que l'autre avait fait, alors qu'en fait, il n'avait aucune raison de le faire, il aurait dû y aller, il aurait dû revenir en disant « mais non, je reprends le jeton, je suis sûr de moi cette fois-ci, c'est toi qui dois réviser ton jugement ». Donc voilà. Et donc du coup, ça entraîne aussi une autre conséquence, qui est intéressante, et ce qui est précisé dans la règle, c'est que plus on est nombreux, bah, plus c'est difficile de se classer les uns par rapport aux autres, parce que plus il y a de cas qui se présentent. Alors, maintenant, je vous propose d'en revenir aux détails qui font que le jeu, selon moi, est brillant. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est le grand principe de The Gang. Ce qu'il y a, c'est que ça se joue en trois manches gagnantes ou trois manches perdantes. C'est-à-dire que quand on gagne, il faut gagner trois fois, il faut qu'on se classe correctement trois fois dans une partie. Ou si on se classe mal trois fois, eh ben, on a perdu. Et puis, il y a un mode avancé. Et ce mode avancé est le suivant. Si je gagne, si on se classe correctement, si on s'est bien classé, alors on va piocher une carte qui est une forme de malus on va avoir une difficulté supplémentaire pour la nouvelle manche. À l'inverse, si on a perdu, on a une carte qui va nous donner un petit effet, plutôt une espèce, une forme de bonus, et qui va nous servir sur cette manche-là. Donc, ces petits bonus et ces petits malus vont changer les règles, bien sûr, de toutes les règles que je viens de vous donner, les règles du Texas Hold'em, très légèrement, mais suffisamment pour que nos conventions de jeu se voient bousculées et on est obligé de s'adapter à ce qui vient d'arriver, bonus ou malus, à chaque partie, autour de la table. Arrive par-dessus ça un mode pro qui augmente la difficulté et un mode gangster qui là laisse très peu de place à la chance parce que on n'y a plus de bonus, on part avec deux malus qui changent à chaque fois et en plus si vous perdez deux fois, ben c'est perdu définitivement. Ça devient voilà, le jeu propose quand même plusieurs niveaux de difficulté. L'autre intérêt du jeu, c'est son fluff. Donc comme tu disais, on va avoir une histoire de braquage, The Gang, dans l'idée, donc au niveau mécanique, on est bien d'accord, ça reste le Texas Hold'em et on essaye de se classer les uns par rapport aux autres. Mais on est en fait dans l'imaginaire du braquage de jeu de casino, vu qu'on est sur du poker. Et du coup, l'idée, c'est que en fait, à chaque fois qu'on réussit à bien se classer les uns les autres, on vient d'ouvrir un coffre et on commence à faire un braquage. Et donc, il faut réussir 3 braquages ou alors 3 fois, on fait sonner l'alarme. Et tout est en rapport avec ça. Les bonus, donc dont je vous parlais, les cartes bonus, sont en fait des cartes personnages stylisées comme des jeux de 54 cartes traditionnels, mais en plus joli, et qui représente des figures habituelles des films de braquage. Il y a le cerveau de la bande, l'arnaqueuse, la conductrice, la hackeuse, l'actionnaire, le valet, et ainsi de suite. À l'inverse, tout ce qui va être niveau de difficulté, ça va être par exemple une barrière photoélectrique, une grille d'aération, un capteur de bruit. Et donc voilà, oh là là, on est en train de faire notre braquage, et faut faire attention. De la même manière, donc du coup, on est avec un jeu de 54 cartes traditionnel, mais les figures des têtes, les figures, sont aussi retravaillées. Du coup, là, j'ai un roi, et il est avec un chalumeau dans la main, et il est prêt, on imagine qu'il est en train de faire brûler la porte, de faire la partie de la fonte, d'une reine avec une perceuse, un valet avec un clavier d'ordinateur, prêt, on imagine, à hacker le système informatique. Donc tout ça fait qu'on est d'autant plus dans l'ambiance. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une autre forme de tension que celle du poker, mais qui est quand même reprise vraiment au poker, ce truc du « on prend deux cartes, on se regarde tous, qu'est-ce que tu prends comme jeton ?»« Ouais, non, oui, moi je prends ça, toi tu prends ça. » »« On fait réapparaître trois cartes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il fait ?» et ainsi de suite. Et c'est extrêmement plaisant. C'est retrouver cette espèce de tension comme ça qu'on peut avoir au poker, mais en sachant que c'est pas contre les autres, c'est on essaye de bien se comprendre et de se coordonner pour réussir un braquage, effectivement, qui est on joue au poker ensemble et on a compris dans quel ordre tout ça était en train de tomber. Mmh. Alors, les auteurs, du coup, qui ont fait ça sont des gens qui ont fait d'autres jeux, mais qui n'ont pas été édités, en tout cas pour ceux qui sont présentés par l'éditeur. En France. Au niveau du matériel, je vous disais, c'est un jeu de 54 cartes revisité. Alors, j'ai un bémol, tout petit bémol, qui est, il y a le roi de cœur, qui est très beau, mais qui a une espèce de chapeau et qui fait que on a l'impression que c'est une forme de chevelure. Et du coup, si vous regardez vite fait vos mains, vos deux premières cartes et que vous les recachez tout de suite, si vous n'avez pas fait attention au K qui dit King, vous pouvez croire que vous avez une reine plutôt qu'un roi. Bon. Une fois qu'on sait ça, on se dit juste, faut bien regarder le J, le Q et le K. Et voilà, on est sûr de ce qu'on a en main quand on fait quelque chose d'assez rapide. Mais c'est tout. Les règles sont très très bien expliquées, dans les règles, en tout cas. Voire même, c'est parfois à un moment, on a envie de dire, avance. Mais non, les quatre étapes, c'est-à-dire le pré-flop, le fop, le turn et la rivière, ils prennent le temps de donner un exemple et d'avancer comme ça dans une partie pour qu'à aucun moment on ne soit perdu. Et c'est vraiment très agréable. Il y a aussi, a été pensé, donc des résumés des 3 à 5 braquages qu'il peut y avoir par partie, le classement des combinaisons. Alors ça aussi, c'est assez amusant. C'est une autre source d'information. C'est quand vous jouez avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer au poker et qui connaissent mal les combinaisons du poker, quand tout à coup vous les voyez regarder leur anti-sèche des combinaisons, genre « Alors attends, c'est fort au-dessus de quoi ça? Et on se dit, ah, il a un truc pas banal, lui. C'est pas une paire qu'il a. Parce que sinon, il irait pas regarder quel est le niveau de ce qu'il a. Mais c'est pas non plus de la triche, parce qu'encore une fois, c'est une forme de communication codée et dont on, voilà, on se dit juste, ah, c'est peut-être pas banal, mais c'est pas, ça donne pas plus d'informations que ça.
Ouais.
Voilà.
En fait, y a de la communication limitée, mais tu as quand même le droit de communiquer. C'est-à-dire que oui, tu peux pas dire ce que tu as comme carte, mais typiquement, tu as le droit de dire, ah ben là, avec ce qu'il y a au flop, on peut avoir une double paire, peut y avoir une couleur autour de la table. Ça, c'est autorisé, en fait. C'est de se rappeler quels sont les potentiels autour de la table. Je sais que ça peut aider justement pour les jeunes joueurs de poker, on va dire, qui connaissent pas trop les combinaisons, mais de se rendre compte de, tiens, s'il y en a un qui réagit vite, c'est peut-être parce que, ben, il y a ça possible, et ça aide pas mal, ouais, effectivement. Après, ce qui est difficile avec les jeunes joueurs de poker, enfin, ceux qui découvrent un petit peu les combinaisons de poker, c'est de se rendre compte que, ben, si on a une paire dans ces deux premières cartes, c'est extrêmement fort. Alors qu'on va peut-être se dire, si on connaît pas les combinaisons, bah, qu'une paire, ouais, bah, c'est une paire, quoi. C'est la plus faible des combinaisons que je peux avoir. Enfin, c'est pas la plus faible, parce que tu peux après avoir la carte haute, mais c'est juste la première, donc une paire, c'est peut-être pas le mieux. Mais si, si, en fait, une paire à première donne, c'est énorme. Et voilà, il y a toute cette culture, entre guillemets, de la statistique qu'il faut apprendre dans les premières parties si on n'a jamais fait de poker. Mais ça vient très vite, en fait, hein, parce que, comme on le disait, les parties sont très rapides et ça s'enchaîne, quoi. Clairement, on reste pas sur un essai, parce que déjà, il faut faire trois manches gagnantes, trois manches perdantes, donc ça peut aller jusqu'à cinq manches avant que ça se termine. C'est et ça, ça laisse comme ça aussi le temps de s'étalonner. Ouais.
Oui, exactement. Et souvent, la compréhension se fait au milieu de,
c'est ça,
justement, de la partie. Enfin, moi, ça s'est souvent fait comme ça avec des gens qui n'avaient pas l'habitude du poker. Mm. Et puis, pour reprendre mon analogie du début, par rapport à The Mind et The Crew, je trouve qu'au niveau de technicité, donc The Mind, c'était très simple, parce qu'il suffisait d'avoir la comptine numérique de 1 à 100, ce qui est un prérequis, ça va, qui n'est pas trop important. Alors que The Crew nous demande d'avoir des habitudes dans des jeux de plis. Et ouais, là, c'est autre chose, ça quand même demande plus de technicité. Ici, quand même, les combinaisons de poker, et surtout avec ces petits rappels de tout, fait que on rentre assez vite dans le jeu, même quand on n'est pas connaisseur. Et j'ai joué avec des gens qui connaissaient mal le poker, et au bout de la troisième manche, c'est bon. Ils y étaient, ils étaient dedans, quoi. Et on commençait à, justement, à avoir vraiment un travail d'équipe entre nous, où on s'était tous plus ou moins ajustés les uns aux autres, et on commençait à gagner. Mmh. Alors, autre précision aussi à faire, qui sont intéressantes quand j'ai dit que les règles nous accompagnaient énormément, ils proposent aussi, et c'est assez intéressant dans les premières parties, de découvrir au fur et à mesure les bonus et les malus dans un ordre prédéfini. Parce que les cartes de bonus et de malus ont un numéro, elles vont de 1 à 10, et ce qu'ils conseillent, c'est, donc vous les mettez donc, de 1 à 10, donc la première que vous pichez, c'est la 1, et une fois que vous l'avez eue, vous la mettez en dessous, et tant que vous n'avez pas vu les 10 cartes dans l'ordre, eh ben, ne mélangez pas vos paquets et ne partez pas comme ça, le nez en l'air, en se disant « c'est bon, ça va partir ». Et je trouve ça intéressant aussi pour des premiers joueurs face à ce genre de jeu, où il y a une espèce d'accompagnement comme ça, qui ensuite, si t'as pas envie, tu fais tout de suite sauter et tu mélanges tout de suite les cartes, mais qui aide à voir l'intérêt, parce que c'est pas tant une question de complexité, mais de twist toujours plus ou moins retors qui avance là-dedans. Du coup, tu nous disais que tu avais pas mal joué toi aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Alors moi, j'ai eu l'occasion de le découvrir au mois de juillet dernier, en fait, avec une version fan-made de gens qui avaient pu jouer à des proto-hôtes. Et du coup, on l'avait essayé, mais sans les cartes pouvoir, tu vois, juste avec le jeu de 54 cartes et puis donc des jetons bricolés. Et on y a joué comme ça jusqu'à 8, notamment. Et donc, on l'a découvert comme ça et on a pu donc appréhender la mécanique du jeu. Donc, très, très intéressé dès le début. Et donc, on se l'a effectivement acheté dès qu'il est sorti. Entre-temps, on s'était même fait une version fan-made pour le faire découvrir autour de nous aussi, en attendant que ça arrive. Et moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu très clivant. Il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt du jeu. Alors, comme dans The Mind, on va dire. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur de The Mind. J'apprécie moyennement le jeu. Je comprends le principe, le concept même derrière, presque. Hein. Mais je ne suis pas très, très fan. Là, le fait de le matérialiser par des combinaisons de poker, je trouve ça déjà plus intéressant, plus réel, on va dire. Même si je suis pas un grand joueur de poker, je connais à peu près les combinaisons, mais le fait de raccrocher comme ça quelque chose sur cette mécanique de communication restreinte, je trouve ça très très malin. C'est marrant de voir que les expériences se se reproduisent entre les différents joueurs. Parce que l'histoire de parier sur un potentiel plutôt que sur un réel, on le retrouve à tous les groupes de joueurs, j'ai l'impression, de se dire « moi j'ai peut-être une couleur à la fin si la bonne carte sort, donc je prends du très fort tout de suite ». C'est du vécu autour de toutes les tables de jeu. Il y a toujours, et même moi, je sais que je me pose la question, je fais « ah là, s'il y en a une bonne qui sort, je suis très fort, donc je vais prendre un jeton fort ». Mais non, parce que je suis pas encore fort. Et du coup, ça peut perturber le signal que j'envoie à mes camarades quand ils vont essayer de retracer. Parce que l'intérêt, c'est qu'effectivement, comme on garde nos jetons de chaque tour, les gens peuvent comme ça essayer de reconstituer ce qui a fait augmenter ma position ou descendre ma position en fonction de ce qui sort ou ce qui sort pas. Donc si j'envoie un mauvais signal quelque part dans le milieu ou même au départ, c'est très difficile pour mes camarades de jauger ce que je peux avoir et donc de s'étalonner par rapport à moi. Mais c'est un jeu, pour moi ça fait mouche à chaque groupe de joueurs. Alors tout le monde est partant pour y jouer. Après, je disais des gens qui accrochent moins, mais qui sont quand même là pour faire la première partie, qui veulent découvrir, qui sont intrigués, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment on joue avec ça. Et tout de suite, quand tu dis c'est du poker coopératif, tout de suite, ça intrigue, quoi. C'est, ah oui, poker coopératif, oui. Viens voir. À communication limitée, ah oui, encore plus, tiens. Donc voilà, c'est... Tout de suite, ça coche des cases qui ne sont pas censées aller ensemble, donc ça intrigue toujours, quoi. J'ai des souvenirs de soirées très, très intéressantes. Et moi, il y a un truc que je reproche à la version éditée, peut-être parce que j'ai joué avec des fan-made à l'inverse, mais c'est l'ordre des étoiles, tu vois. Pour moi, une étoile, c'est la meilleure, parce que t'es le premier joueur, t'es le plus fort. Le premier dans une compétition, c'est le plus fort, tu vois. Et là, c'est à l'inverse. Et d'autant plus quand le nombre de joueurs varie, le plus fort, c'est une fois 4 étoiles si tu joues à 4, ou c'est 5 étoiles si tu joues à 5. Donc le plus fort, c'est pas toujours la même. Et dans le jeu, si tu te précipites sur un jeton, c'est parce que t'es le plus fort. Donc si tu as besoin de réfléchir, on est 6, le plus fort c'est la 6, je cherche le 6, toi c'est moins instantané de dire le plus fort c'est toujours le 1, et il y aura toujours le jeton 1, donc je prends le 1. Toi, il y a cette, pour moi, un petit défaut d'ergonomie où j'aurais inversé les étoiles, mais encore une fois, je chipote. Alors, peut-être parce que on avait fait des fan-made à l'inverse, tu vois.
C'est très drôle que tu dises ça, parce que sache que, en fait, moi aussi, quand j'avais lu les règles, on avait joué, et en fait, tu vois, il y avait des moments où j'avais un peu survolé, et du coup, nos premières parties, on a joué en faisant que le 1 était pour nous le meilleur. C'était
logique.
C'était le premier, en fait, c'était lui le plus fort, et ça me semblait le plus logique. Et c'est en préparant cette émission que, du coup, j'ai relu bien les règles, je me suis dit, oh là là. Donc maintenant, on a changé avec les joueurs, et ça passe. Une fois que... Moi, ça va. C'est passé, mais je suis d'accord avec toi que dans mon imaginaire aussi, j'étais là, surtout en plus avec le poker où tout à coup, un tout seul, tu te dis, c'est l'as, vas-y, c'est bon, c'est trop fort. Et c'est pas le cas, en fait.
Ouais. Alors ça marche, mais quand tu commences à jouer avec les cartes pouvoir ou les cartes malus, quand ils te parlent du plus grand, du plus petit, le plus étoile, le moins d'étoile, là c'est perdu, le fait d'inverser, ça marche plus. Faut vraiment revenir à la configuration d'origine du jeu.
Alors, je reviens pas en précision sur les pouvoirs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à les découvrir, justement, les uns les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours un petit twist, pas hyper violent, mais qui change quand même, qui nous fait perdre une partie de l'information, qui crée un grésillement dans notre communication entre nous, et qui du coup est toujours un nouveau grésillement, et on se dit, oh là là, attends, avec ça, comment est-ce qu'on va se faire comprendre, et c'est vraiment vraiment intéressant comme jeu.
Et puis surtout quand tu joues en mode gangster et que tu mets du coup deux cartes malus en même temps, tu te dis, mais comment ça se combine, ces deux trucs là, comment on va pouvoir communiquer? Non, c'est intéressant de voir que justement les malus se combinent entre eux, ils sont tous additionnable, entre guillemets, il n'y a pas d'impossibilité. Et du coup, comme tu arrives sur des combinaisons de malus, le fait que ça se reproduise d'une partie à l'autre est très faible, quoi. C'est parce que dans ce cas-là, tu les tires au hasard, c'est plus forcément dans l'ordre des numéros. Donc, c'est super intéressant pour ça, c'est que ça va te demander de t'adapter, et que le groupe, dans sa communication et dans ses codes qu'il a mis en place depuis le début, change les codes de manière à s'adapter à ses contraintes, quoi.
Ouais. La seule peut-être petite limite que je lui verrais, c'est si tu restes toujours avec le même groupe, au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire que même en allant en mode gangster, Si on est avec des gens avec qui on a l'habitude, et la communication passe, malgré les grésillements, même s'ils sont assez forts avec ces deux cartes, on arrive quand même à se comprendre et on peut y arriver, en fait. Enfin, je veux dire, alors, de toute façon, c'est pas impossible, ça, c'est certain, mais la difficulté arrive pas à un niveau où on se dit « Oh là là, ça, c'est vraiment dans des cas très rares où on gagne, on peut y arriver. » Et donc, c'est plus un jeu où, encore une fois, c'est intéressant de changer, ne serait-ce qu'une personne dans le groupe.
Ouais.
Parce que du coup, il faut complètement que tout le monde se réadapte et on se fait « oh là là ». Et là, la difficulté revient en fait, pour de vrai. Alors que si ça ronronne à un moment dans un groupe, ben oui, on y arrive en fait.
Ouais, c'est clair que nous, même à la fin d'une soirée, tu vois, tu commences, le groupe se connaissait pas au début de la soirée, tu fais, on va dire, allez, 2 heures de jeu dessus. À la fin des 2 heures, on arrivait à se dire chacun quelle carte il avait. Et on tombait vraiment pas très loin de ce qu'il avait, quoi. Genre à un point ou deux sur une des deux cartes, quoi. C'est vraiment, au bout d'un moment, t'arrives à comme ça à sentir, tiens, toi, t'as réagi quand il y a ça qui est sorti, ouais. Mais t'as réagi, t'as pas forcé quand je t'ai pris le jeton, tu l'as repris qu'une fois, je l'ai repris, tu l'as pas repris. Enfin voilà. Et du coup, t'arrives à comme ça, à jauger vraiment finement. Les cartes de chacun. Et c'était un petit jeu dans le jeu à la fin de se dire attends, avant de retourner, on va essayer de deviner ce que t'as, quoi. C'était marrant de se rendre, ouais, compte de la précision qu'on arrivait à atteindre.
Non, effectivement, un jeu vraiment, vraiment intéressant. Et enfin, le fait de reprendre un jeu connu et de le twister avec cette idée de coopération, c'est vraiment quelque chose qui est très, très agréable, quoi. Qui nous perturbe, qui nous malmène un tout petit peu si on est habitué au jeu d'origine, et puis, mais tout à coup, on voit tout l'intérêt que ça peut et que ça peut porter, et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est vraiment, non, une belle réussite, ça c'est certain.
Très malin, très malin. On arrive encore à avoir des surprises sur des concepts connus en mariant des concepts et des mécaniques. C'est fort quand même. C'est le professeur, je crois, qui disait qu'il voulait se faire un générateur de jeux, en mettant différents thèmes ensemble, et puis en les lançant, et en essayant après de faire un jeu avec les thèmes qui tombent, quoi. En gros, tu vois, t'as poker, coopératif, communication limitée qui tombe, et hop, tu sors The Gang.
C'est ça.
Bel exercice.
Oui, très bel exercice. Et puis qui ne reste pas l'état d'exercice.
Oui, oui.
Qui s'affirme. Enfin, je veux dire, tu vois, quand le reproche, par exemple, que tu fais à The Mind, où tu vois le concept, mais où tu n'y accroches pas, celui-là, je trouve que ça va au-delà du concept. Ça fonctionne en jeu pour de vrai et avec des publics très variés, en fait. Il faut juste accepter cette tentative de compréhension de ce qu'a le jeu de l'autre, et on est en coopératif, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très allergiques au coopératif quand même. Ça, c'est certain.
C'est sûr. Je suis pas fan de coopératif à la base, mais avec The Gang, ça marche. Ok, merci pour cette présentation du jeu.
Bah écoute, merci à toi aussi pour CETI, du coup.
Et merci pour cette première émission des Jeux du Mois. Tu t'en es bien sorti, ça.
J'espère.
Dites-le nous en commentaire. Ou en tout cas, que vous ayez aimé ou non notre émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr. Alors on n'oublie pas, proxy c'est avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur X, Facebook, Instagram, mais aussi et surtout sur notre Discord. On a un Discord où on échange entre joueurs, joueuses, sur tous les sujets et toutes nos émissions. Et pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux.
Si vous avez aimé ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer par PayPal ou par un virement bancaire à l'association. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission Jeu du Mois.
Et la semaine prochaine, vous retrouverez un Le Pour et le Contre, dans lequel Curse et le Pionfesseur s'affronteront en duel façon western, puisqu'ils vont parler du jeu Colt Express. On se retrouve très bientôt, et en attendant, jouez bien, bien.